10. Au terminus de location de taxi aérien, Seldon essaya de se fondre dans le paysage, ce qu'il trouva difficile. Mais se fondre ostensiblement dans le paysage, déambuler discrètement, détourner le visage de tous les badauds qu'on croise pour examiner avec un intérêt soutenu l'un quelconque des véhicules, était sans doute le meilleur moyen d'attirer l'attention. Il valait mieux jouer plutôt la normalité innocente. Mais qu'est-ce que la normalité ? Il se sentait mal à l'aise dans ses habits. Il n'avait pas de poche, alors où mettre les mains ? Les deux sacoches pendues de chaque côté de sa ceinture le distrayaient en le cognant à chaque pas. Il avait toujours l'impression d'avoir été bousculé par quelqu'un. Il essaya d'examiner les femmes au passage. Elles n'avaient pas de sacoche, du moins pas suspendues en évidence, mais certaines portaient de petites pochettes carrées, parfois accrochées à la hanche par quelque dispositif indécelable. Pseudo-magnétique sans doute. Leurs vêtements ne mettaient pas spécialement en valeur leur silhouette, nota-t-il avec regret, et aucune n'arborait le moindre décolleté, même si certaines robes semblaient dessinées pour souligner les fesses. En attendant, Eumine s'était affairé, et après avoir présenté les crédits nécessaires, il était revenu avec la plaquette de céramique supraconductrice permettant d'activer un aérotaxi déterminé. « Montez, Seldon, » dit-il en désignant un petit véhicule à deux places. « Avez-vous dû signer quelque chose, Eumine ?»«
Bien sûr que non. Ils me connaissent ici, et ne s'embarrassent pas de formalités.
Qu'est-ce qu'ils peuvent penser ?»«
Personne n'a rien demandé. » Et je ne me suis pas attardé sur les explications.
Il inséra la plaquette, et Seldon sentit une légère vibration quand l'aérotaxi prit vie.
« On va se diriger vers le D7 », annonça Eumine, histoire de dire quelque chose.
Seldon ignorait ce qu'était le D7, mais il supposait que ce devait être un itinéraire ou une route quelconque. L'aérotaxi se fraya un chemin entre d'autres véhicules à effet de sol, gagna finalement une remplisse et prit de la vitesse. Puis il s'éleva avec une légère secousse. Seldon, qui s'était retrouvé automatiquement attaché par un filet de sécurité, se sentit d'abord plaqué au fond de son siège, puis poussé vers le haut, contre son harnais.
« Ça ne fait pas du tout le même effet que l'antigravité. »«
Ce n'en est pas, » expliqua Eumine.
« C'était un petit réacteur. Juste de quoi nous amener au niveau des tubes. »
Une sorte de falaise apparut devant eux, ponctuée d'ouvertures de cavernes, un peu comme un damier. Eumine manœuvra pour gagner l'ouverture des sept, évitant les aérotaxis qui se dirigeaient vers d'autres tunnels.
« C'est qu'on pourrait s'écraser vite fait, »
remarqua Seldon en se raclant la gorge.
« Ce serait le cas si tout dépendait de mes sens et de mes réactions. Mais le pilotage est géré par un ordinateur, et ce dernier peut me reprendre les commandes sans problème, de même pour les autres taxis. »
« Et c'est parti !»
Ils se glissèrent dans le D7 comme s'ils avaient été aspirés de l'intérieur. La lumière vive de l'esplanade découverte, dehors, s'atténua pour prendre une teinte d'un jaune plus chaud. Eumine relâcha les commandes et se cala contre le dossier. Il prit une profonde inspiration et dit
« Eh bien, voilà une première étape franchie avec succès. Nous aurions pu être interceptés à la station. Ici, nous sommes à peu près en sécurité. »
Les parois du tunnel défilaient rapidement. Il progressait sans heurts, presque sans bruit, hormis un ronronnement velouté, tandis que filait leur véhicule.
« À quelle vitesse allons-nous ? » demanda Seldon.
Eumine jeta un bref coup d'œil au tableau de bord. 350 à l'heure.
« Propulsion magnétique ? » ?»«
Oui. » »«
Vous avez ça sur Helicon, j'imagine. » »«
Oui. » »«
Une ligne. » Je ne l'ai personnellement jamais emprunté, bien que j'en ai toujours eu le projet. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de rapports entre les deux systèmes.
Ça m'étonnerait, en effet. Le sous-sol de Trentor est criblé de plusieurs milliers de kilomètres de tunnels tels que celui-ci, et dont certains s'insinuent jusque sous les hauts fonds marins. C'est le principal moyen de transport à longue distance.
Combien de temps nous faudra-t-il
pour atteindre notre première destination?
Un peu plus de 5 heures.
5 heures. Seldon était consterné.
« Ne vous affolez pas. Nous passons à peu près toutes les 20 minutes devant des aires de repos où nous pouvons nous arrêter, quitter le tunnel, nous dégourdir les jambes, manger ou nous soulager.
Bien sûr, j'aimerais autant que ce soit le moins souvent possible. » Ils continuèrent leur route en silence. Au bout d'un moment, Seldon sursauta. Un éclat de lumière apparut sur leur droite pendant quelques secondes et, l'espace d'un éclair, il crut distinguer deux aérotaxis.
C'était l'air de repos, dit Eumine en réponse à sa question non formulée.
Vous êtes sûr que je serai en sécurité là où vous me conduisez ? S'enquit Seldon.
Tout à fait. Pour les mouvements à découvert des forces impériales. Évidemment, pour un agent isolé, espion ou tueur à gages, il faut toujours être prudent. Je vous fournirai un garde du corps.
Seldon se sentait mal à l'aise.
Un tueur à gages ? Vous êtes sérieux ? Aurait-il vraiment l'intention de me tuer ?
Je suis certain que Demerzel n'y tient pas. Je le soupçonne de vouloir vous utiliser plutôt que vous éliminer. Toutefois, d'autres ennemis peuvent surgir, ou bien il peut toujours se produire un enchaînement d'événements malheureux. Vous ne pouvez pas traverser l'existence comme un somnambule.
Seldon hocha la tête et détourna le visage. Pensez que, 48 heures plus tôt, il n'était encore qu'un mathématicien exo insignifiant et virtuellement inconnu, ravi de passer le reste de son séjour sur Trantor à faire du tourisme et à contempler l'énormité de ce vaste monde avec ses yeux de provincial. Et voilà que l'idée s'ancrait peu à peu en lui. Il était un homme recherché, traqué par les forces impériales. L'énormité de la situation le saisit et il fut pris de frissons.
Et vous alors, dans cette histoire ?
Eh bien, répondit Eumine songeur, je suppose que je n'aurai pas droit à un traitement de faveur. Je pourrais bien finir le crâne ouvert ou la poitrine défoncée par quelque mystérieux agresseur qu'on ne retrouvera jamais.
Eumine avait dit cela sans le moindre tressaillement, sans la moindre emphase, mais Seldon grimaça.
Je pensais bien que vous deviez envisager un tel sort.
Ça ne semble pas vous tracasser outre mesure.
Je suis un vieux trentorien. Je connais la planète mieux que quiconque. Je connais bien des gens et beaucoup sont en dette envers moi. Je me plais à croire que je suis matois et pas facile à doubler. En bref, Seldon, je suis tout à fait certain de pouvoir me débrouiller.
Je suis ravi de vous l'entendre dire. Et j'espère pour vous que cette confiance est justifiée, Eumine. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous prenez tous ces risques. Que suis-je pour vous ? Pourquoi courir même le danger le plus infime pour quelqu'un qui vous est parfaitement étranger ?
Eumine vérifia le tableau de bord, l'air préoccupé, puis se tourna vers Seldon et le fixa, le regard grave.
Je veux vous présenter comme l'empereur veut vous utiliser, pour vos pouvoirs de prédiction.
Seldon ressentit une vive déception. Somme toute, la question n'était pas de le sauver. Il n'était que la proie impuissante que se disputaient deux prédateurs rivaux.
Je ne survivrai jamais à cette présentation au congrès décennal, remarqua-t-il avec colère. J'ai ruiné ma vie.
Non. Ne concluez pas trop vite, mathématicien. L'empereur et son administration vous veulent pour une seule et unique raison, renforcer la sécurité de leur propre existence. Vos capacités les intéressent d'autant qu'ils pourront les utiliser pour sauvegarder l'autorité de l'empereur, la préserver pour son jeune fils et maintenir la situation, le statut et le pouvoir de ses fonctionnaires. Quant à moi, vos pouvoirs m'intéressent pour le bien de la galaxie.
Y a-t-il une différence ?
Cracha Seldon, acide. À quoi Eumine répondit avec un vigoureux froncement de sourcils.
Si vous ne voyez pas la différence, alors honte à vous.
Les hommes qui habitent la galaxie y étaient avant l'actuel empereur, avant la dynastie qu'il représente, avant l'Empire même. L'humanité est bien plus vieille que l'Empire, peut-être même bien plus vieille que les 25 millions de mondes de la galaxie. Des légendes parlent d'une époque où elle habitait une unique planète.
Des légendes, dit Seldon en haussant les épaules.
Oui, des légendes. Mais je ne vois pas pourquoi il n'aurait pu en être ainsi il y a 25 000 ans ou plus. Je suppose que l'humanité n'est pas apparue d'un coup, tout entière, avec la maîtrise du voyage hyperspatial. Sûrement il a dû exister une époque où les gens ne pouvaient pas voyager à des vitesses supraluminiques, où ils ont dû rester prisonniers d'un unique système planétaire. Et si nous regardons vers l'avenir, les hommes qui peuplent les mondes de la galaxie continueront certainement d'exister bien après que vous et l'empereur serez morts, après que toute sa lignée se sera éteinte, et après que les institutions même de l'Empire se seront dissoutes. Auquel cas il n'est guère important de se préoccuper outre mesure des individus, de l'empereur et du jeune prince impérial. Il n'est guère important de se préoccuper même des mécanismes de l'Empire. et les quadrillions de gens qui vivent dans la galaxie. Et eux, alors?
Les mondes et leurs habitants continueront d'exister, je suppose.
Vous n'éprouvez pas le besoin d'explorer les conditions éventuelles dans lesquelles leur existence pourrait se poursuivre?
On peut supposer qu'ils vivront en gros comme maintenant.
On peut le supposer. Mais pourrait-on le savoir, par cet art de la prédiction dont vous avez parlé, la psychohistoire, comme je l'ai baptisée?
En théorie, oui.
Et vous n'éprouvez pas le besoin de mettre cette théorie en pratique?
J'aimerais beaucoup, Amine, mais le désir d'y parvenir n'engendre pas automatiquement la capacité de le faire. J'ai dit à l'empereur que la psychohistoire ne pouvait pas être transformée en une technique opérationnelle, et je suis forcé de vous répéter la même chose.
Et vous n'avez même pas l'intention simplement d'essayer au moins de trouver cette technique?
Non, certainement pas.
Pas plus que je ne désirerais amasser une pile de galets de la taille de 30 or, les compter un par un, puis les ranger par masse décroissante. Je saurais que ce n'est pas réalisable en l'espace d'une vie, et ne serais pas idiot au point de faire semblant d'essayer.
Le feriez-vous si vous connaissiez la vérité sur l'état de l'humanité?
C'est une question qu'on ne peut pas poser.
Qu'est-ce au juste que la vérité sur l'état de l'humanité? Prétendez-vous la connaître?
Oui. Parfaitement.
Et elle tient en trois mots.
Eumine regarda de nouveau devant lui, contemplant brièvement le vide immuable du tunnel tandis qu'ils se ruaient sur leurs machines, grandissaient pour les engloutir et s'amenuisaient en glissant derrière eux. Alors il prononça ces trois mots, lugubres.
L'Empire se meurt.